Vous êtes toujours sur Canal Sud au 92.2, c'est le magazine qui continue. Et nous sommes maintenant en compagnie de Julien et Sylvie. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes tous les deux syndicalistes à la CGT, vous faites donc partie de ces activistes selon la direction de l'hôpital, qui connaît depuis maintenant 26 jours, donc depuis le 1er juin, une grève des brancardières et des brancardiers, c'est plus précisément l'hôpital des enfants, c'est bien ça?
C'est ça. Et plus précisément Purpan.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette grève, qu'est-ce qui a amené les gens à se mettre en grève et puis à durer aussi longtemps?
En fait, le vecteur de cette grève a été la tentative de suicide d'un agent sur son lieu de travail à la suite de ce fait grave, de cet événement grave. Nous avons été sollicités également en qualité de représentants du personnel et du membre du CHSCT afin de mener une enquête, d'organiser également un CHSCT extraordinaire. Et lors de l'enquête, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une multitude de dysfonctionnements et une tension aussi palpable que les collègues ont décidé en fait de mettre à jour leurs conditions de travail et les dysfonctionnements qui pouvaient mener peut-être nous sommes, selon nos orientations, nous sommes contraints d'en tenir compte et de ne pas banaliser ce geste. Et donc, et ce qui en ressort, c'est des dysfonctionnements internes du CHU et également un manque de moyens, pécuniers que humains.
Alors justement, il y a dans un article, il y avait des extraits de la lettre qu'avait laissé donc cet agent, c'était en mai dernier, c'est récent, oui. Où il disait « Ça fait quelques années que je bataille pour nos conditions de travail ou les conditions de vie du patient, je m'en suis épuisé, il faut que ça se sache, il pousse les gens à bout, à l'agressivité entre collègues, à la division, à l'épuisement, à partir. La situation est devenue intenable. »
Ouais, c'est triste, mais en fait, on a tous les ingrédients de la souffrance au travail à l'hôpital, en fait. On a le manque de moyens, donc l'empêchement à bien faire son travail. On a la transformation de l'hôpital aussi dans d'une logique de service public, une logique gestionnaire et à tendance privée, à tendance à vouloir faire de l'argent, en fait. Donc on a cette transformation-là, et en même temps, on a aussi... un sentiment, quand on n'arrive pas à bien faire son travail à l'hôpital, on a un sentiment d'être maltraitant aussi par rapport aux enfants en l'occurrence, ou aux patients plus globalement sur l'hôpital. Donc il y a un truc, quand on rentre chez soi, c'est très très difficile. Quand on a la sensation de ne pas avoir bien fait son travail, c'est extrêmement grave. Et donc on a tous ces ingrédients-là. Et puis nous c'est vrai qu'on a tout de suite fait voter une délibération pour une expertise externe, pour faire l'arbre des causes de cette tentative de suicide, parce qu'on sait que ça peut être multifactoriel, etc. Mais peu importe, nous on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Enfin bon, le fait que ce soit sur lieu de travail, déjà c'est un symbole énorme. Et des deux, il y a cette lettre qui a été laissée, qui est très claire.
Et comment va le collègue?
Va bien aujourd'hui, soutenue. Elle est très contente que ses collègues soient en grève, surtout. Ça, c'est très très important. Et voilà, donc ça va. Elle est en arrêt maladie pour durée indéterminée, mais elle essaie de se reconstruire. En tout cas, ça va mieux.
Alors, est-ce qu'on peut revenir concrètement sur vos conditions de travail? Donc, c'est 14 brancardières et brancardiers pour l'hôpital,
agents, oui.
14 agents. Et de ce que j'ai cru comprendre, avec la nuit, des personnes qui se retrouvent seules.
Oui, tout à fait. Un agent seul peut effectuer la nuit en moyenne entre, ça peut varier, de 25 à 50.
À 50 transports.
Oui.
Donc, comment on fait un transport seul? En général, il faut être deux.
Il faut être deux. C'est ce qui est préconisé par la médecine du travail, partout, par les règles de bon travail du brancardage, c'est deux, bien sûr. Bah surtout qu'il y a des lits qui sont très défectueux, qui roulent très mal.
Et puis il y a des lits qui pèsent plus de 100 kilos.
150
kilos. 150
kilos,
voilà.
Vide.
Non.
Si. Et encore, ils nous disent c'est pas que ceux qui sont les pires, puisque ils sont plus maniables, puisqu'ils sont neufs, en fait, que les lits même plus légers, mais qui ont les roues qui sont complètement
voilés.
Comme des vieux caddies, là.
Ouais, ils disent, ça c'est ce que disent les brancardiers, c'est que les caddies sont en meilleur état que les lits de l'hôpital.
Donc en gros, les revendications, ça porte notamment là-dessus, sur le fait d'être au moins en binôme la nuit.
C'est ça.
Et un prix d'augmentation.
C'est pas que le sous-effectif, ouais, voilà. Aussi,
ouais. Parce qu'il y avait quelqu'un qui déclarait là dans un article qu'il arrive de plus en plus souvent que nous ayons besoin de l'aide des parents lorsque nous sommes seuls à transporter les enfants.
Exactement, ben oui. Et parfois, moi je suis manip radio, je fais d'un service de radiologie de brancardage, moi je les accompagne le plus possible parce que je vois que seul c'est vraiment infernal de brancarder seul, quoi. Donc moi je les accompagne dès que je peux, le plus longtemps que je peux, pour les aider, quoi, parce que bon, voilà, c'est intenable. Et j'ai vu des parents brancarder avec eux, parce que c'est obligatoire, parce que c'est quand on brancarde, c'est pas que un transport. En fait, on fait attention à plein de choses, on fait attention à l'état de l'enfant, on essaie de le rassurer, on lui parle, on fait attention à ce que les sondes ne s'accrochent pas. Alors, il y a d'autres dysfonctionnements en plus, c'est que les couloirs sont archi chargés de plein de choses. Du coup,
matériel,
il faut faire le matériel exact de stockage, parce qu'il n'y a pas de stock à l'occupation des enfants, donc tout se stocke dans les couloirs. Donc, il faut faire très attention. Donc, parfois, juste pour aider à pousser, il y a les parents, et eux regardent bien, font attention à ce que l'enfant soit bien et à ce qu'il n'y ait pas de danger pour lui, quoi.
Les brancardiers et brancardières, vous avez une formation paramédicale ?
Ce sont soit des aides-soignants,
ouais,
soit des auxiliaires de puériculture.
D'accord, donc c'est des gens
qui sont soignants
et qui peuvent donc administrer des premiers soins en quelque sorte.
Qui peuvent,
peut-être j'oublie mal.
Pas par exemple faire d'injection, parce que ce sont des aides-soignants, ça ne relève pas de leur rôle propre, mais on peut supposer qu'ils soient en mesure d'agir en cas d'urgence. Ouais.
Et justement, par rapport à ça, ils nous disent que ça fait certains 7 ans qu'ils n'ont pas eu de formation de premier soin, de premier secours. Puisque impossible, avec le flux tendu de l'équipe, c'est impossible de se libérer pour faire des formations.
Et puis après, au niveau des contrats, je crois qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont embauchés en CAE. Alors, qui ont des...
C'était le cas, ça s'améliore un peu, mais ça c'est pour l'équipe de pédiatrie. Mais les autres équipes, c'est encore beaucoup de précarité, etc.
Donc, mais les problèmes qu'on trouve sur le service de l'hôpital pour enfants, j'imagine qu'ils se retrouvent au niveau de tout le CHU de Purpan.
Oui, à une certaine échelle, oui. Si on parle d'effectifs, oui. Si on parle d'encombrement des couloirs, oui. Si on parle de matériel défectueux, oui.
Oui, 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 j'ai même cru remarquer qu'il y avait des ascenseurs quelque peu fantaisistes par moment.
Expérience personnelle.
Ah oui, expérience personnelle. Et du coup. Est-ce que vous êtes j'imagine, il y a des réunions, je ne sais pas si elles sont quotidiennes des AG ou... Parce que comment ça se déroule une grève de brancardier ? Il faut assurer quand même les urgences ?
Mais disons que la grève n'empêchera pas la continuité des soins. Voilà, on travaille à l'hôpital. Mais ensuite, le service minimum, en principe, je dis bien en principe, doit être fixé et avec la direction et avec les organisations syndicales. Là aussi, on rencontre beaucoup de difficultés à faire entendre justement qu'une grève, un mouvement de grève nécessite justement qu'on fasse travailler un minimum de personnes.
Mais parce que déjà, vous êtes à flux tendu.
Oui.
Oui.
Donc mais parfois, ça arrive très souvent que le service minimum d'une grève soit le service normal. C'est ce qui se passe aux soins intensifs de Mondor, un autre service qui est en grève, là, qui était en manif jeudi, et qui y aura sûrement un scoop, une manif jeudi.
Des hospitaliers,
Hospitaliers aussi, des infirmières et des soignantes. Et elles, en négociant le service minimum, on s'est rendu compte que, en fait, elles étaient déjà en service minimum. Donc en fait, tous les agents sont grévistes et tous les agents sont assignés, viennent travailler et sont payés.
Ouais.
Parce que l'hôpital est au minimum, en fait, depuis longtemps.
Et oui, depuis un moment. Mais du coup, les revendications précises, c'est quoi ? C'est de l'embauche de...
Oui, un recrutement supplémentaire, c'est-à-dire un agent H24, c'est-à-dire dans l'équipe du matin, dans l'équipe de l'après-midi, et un supplémentaire aussi la nuit. Ce qui leur permettra également d'appliquer les préconisations de la médecine du travail, en l'occurrence sur l'analyse des risques de ce service qui a préconisé le travail en binôme pour ses agents. Et ça, c'est possible uniquement avec du personnel supplémentaire.
Ouais. Et que dit la direction jusqu'à maintenant ?
Elle se casse.
Elle dit rien à ton étalon et elle fuit.
Voilà.
D'accord, elle fait l'autruche.
Ouais.
Voilà.
Il y a même eu des menaces de sanctions disciplinaires,
c'est ça,
non ?
Ouais.
Tout à fait.
Ouais.
C'est-à-dire menacer le porte-parole ou l'ensemble des personnes.
En fait, ils ont pris le prétexte d'une fiche de signalement en fait d'un événement indésirable, parce que le service, évidemment, tout est ralenti. Évidemment, il y a quand même certains grévistes, parce que voilà. Donc, ils sont concrètement 2 le matin, 2 l'après-midi, au lieu de 3 le matin, 3 l'après-midi.
D'accord.
Donc, ça, évidemment, ça gêne. Surtout que maintenant, ils travaillent exclusivement en binôme, et donc ils ont choisi de faire les transports en binôme. Du coup, c'est comme s'ils diminuaient encore de un agent, en fait. Mmh. Donc, en fait, ça, il y a des gros dysfonctionnements pendant la grève, ça c'est sûr. Sauf qu'ils sont quand même professionnels et ils font les choses comme il faut. C'est-à-dire, ils traitent les urgences, ils traitent les choses. Voilà, ils mettaient en danger personne. Et sous prétexte d'une fiche de signalement, en fait, la direction a dit, voilà, nous avons la preuve qu'un agent n'a pas fait une course urgente, etc. Manque de bol. Cette course avait été faite, on l'avait su, etc. Et donc, ils ont menacé, sans vérifier, en fait, ils ont menacé un agent, mais juste pour essayer de casser la grève, pour casser le mouvement, etc. Oui, en gros, c'était l'idée, mais ils n'ont pas pu aller plus loin, puisqu'il n'y avait rien. Mais c'était, voilà, c'est pour dire l'intention de la direction. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on disait, c'est des éléphants dans un magasin de porcelaine, parce que nous, ce qu'on considère, c'est qu'un service qui a subi, qui a vécu un drame, quoi, un type de suicide sur le lieu de travail, c'est terrible, quoi. Qui a vécu ça, la première chose que disent les spécialistes de la souffrance au travail, c'est que si c'est arrivé à un endroit, ça peut arriver encore.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà, c'est qu'il y a un état d'élitement du collectif de travail qui est tellement important que ça peut arriver ailleurs. Donc, il faut faire très attention dans ce type de service-là. Donc, nous, première chose, on les a accompagnés, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau CHSCT, etc. On a fait, en plus, on leur a proposé, et c'est venu d'eux, hein, mais on a accompagné leur mouvement de grève, parce que dans le sens aussi de reconstruction de leur collectif, c'était important d'avoir ce mouvement, qu'ils aient des objectifs communs, qu'ils aient qu'ils reconstruisent leur collectif de travail, tout simplement. Et donc, nous, on les a accompagnés là-dessus. Derrière, la direction vient en disant « Vous n'aurez rien », et qui les menace de sanctions. Donc, on dit, et puis qu'ils disent « Voilà, la tentative de suicide, ça n'a absolument rien à voir avec le travail.
Ben »
Et que voilà, c'est encore des constructions des syndicats, c'est encore l'activisme de la CGT, etc. Donc, on est dans une situation où le dialogue, il est impossible, quoi, absolument impossible. Donc, nous, on a demandé une médiation avec l'inspecteur du travail, pour essayer d'aboutir quand même à quelque chose, quoi. Et bon, ils ont refusé la médiation pour l'instant. On a redemandé la direction.
J'ai du mal à comprendre comment on peut être aussi borné, parce que vos revendications, ça a l'air de relever du simple bon sens.
Ah, c'est du pur bon sens.
Mais ça relève du bon sens, c'est pas productif.
Et voilà, il y a d'autres logiques qui sont à l'œuvre depuis des années dans
l'hôpital. On n'a pas les mêmes prérogatives. Eux, ils ont rentabilité, à fond. Et nous, conditions de travail.
Même d'un point de vue rentabilité, c'est pas un épuisant de personnel. Enfin bon. Et du coup, est-ce que vous essayez de dialoguer, d'étendre à d'autres services? Parce que j'imagine que le problème des brancardiers du service pour enfants, c'est le problème des brancardiers de tout le CHU. Donc, est-ce que vous essayez d'élargir, ou comment ça se passe?
Une AG est prévue le
vendredi.
Vendredi, ouais.
D'accord.
Et donc, là, ça va concerner globalement le pôle 33.
Alors voilà, là, il faut expliquer un peu.
Le pôle 33. Ouais.
Depuis 2005, en fait, la loi HPST a été votée. Et donc, ça, au niveau du financement, ça a changé. L'hôpital, avant, était financé par l'ARH, qui est devenu l'ARS. Et l'hôpital, en fait, s'est sectorisé en pôle. Et en fait, leurs services, ils se les vendent les uns entre les autres.
Oui, en gros, il y aurait le pôle chirurgie, le pôle...
Pôle digestif, pôle enfant. Alors, en l'occurrence, on va prendre l'exemple du hôpital des enfants, parce que c'est intéressant. Il y a le pôle enfant, donc c'est les services donc, cliniques ou chirurgicaux de
pédiatrie.
De pédiatrie. Et les brancardiers ne sont pas dans le même pôle. Ce qui se passe, c'est que le pôle brancardage vend des courses. C'est une logique client-fournisseur. Ils vendent des courses au pôle clinique. Donc, les pôles cliniques, ils ont pas tellement intérêt à faire des courses, puisque ça leur coûte cher. Mais finalement, ils ont quand même bien besoin. Donc, il y a tout un système de logiciels pour pouvoir facturer, etc.
Tout est prêt pour la privatisation, quoi.
Ah, mais c'est une privatisation.
C'est une privatisation en marche,
oui, complètement. Ce qu'on dit, c'est une... En plus, ils créent... Ils externalisent, en fait. Mais En restant dans le public, ils externalisent le brancardage et le bio-nettoyage, qui est le nettoyage de, voilà,
des chambres, des locaux,
chambres, des locaux, ouais, et tout. Ouais. Donc ça, c'est la même logique. C'est pour ça que l'AG, on l'a fait sur le brancardage et sur le bio-nettoyage aussi. Et en fait, nous, ce qu'on appelle, c'est ils font une McDonaldisation de ça. C'est-à-dire qu'ils créent des filières internes, de progression interne. Ils créent toute la possibilité pour que ce truc-là soit un jour privatisable. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé, d'ailleurs, certains services de bio-nettoyage ont été privatisés carrément dans l'hôpital.
Déjà à Toulouse.
Déjà à Toulouse, oui, au CHU de Toulouse. Il y a moi, dans mon service, mon service de radiologie pour enfants, c'est une entreprise privée qui intervient pour faire le bio-nettoyage, alors qu'il y a des secteurs sensibles, quoi. Extrêmement sensibles. Le scanner, on fait des ponctions, on fait des choses en stérile, et non. Et c'est quand même une entreprise privée. Avant, il y avait 3 agents quand c'était public, et il n'y a plus qu'un agent maintenant que c'est privé.
Ah ouais.
Donc vendredi, il y a une AG donc, qui concerne les deux pôles, parce qu'il faut les appeler comme ça.
C'est le même pôle,
c'est
mais...
C'est le même pôle.
Voilà. C'est le même... Ah.
C'est, ouais. C'est la même logique, en fait.
Parce que ce pôle 33, donc, c'est un pôle qui regroupe les prestataires, donc les brancardiers et brancardières, le pôle bio-nettoyage, et puis les assistantes sociales aussi.
Voilà.
C'est ça. Qui sont c'est très logique, hein, d'ailleurs.
Ah, c'est les râteaux laveurs, non ?
Il y a un peu la logique absurde de privatisation, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on regroupe des choses qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble.
Et vous avez des contacts avec Rangueil ou avec les autres hôpitaux toulousains ?
Et quand on dit l'Assemblée Générale, elle va être sur tout le pôle, et le pôle, il est à Rangueil, entre Rangueil, Purpan, Hôpital des Enfants, ouais, Maternité, okay. Même jusqu'à Salis du Salat, la Fontaine Salée, qui fait partie du CHU aussi.
Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres grèves qui sont en cours dans d'autres...
Alors oui, alors il y a celle des soins intensifs de Mont-d'Or, donc là c'est aussi quelque chose de dingue, c'est que... Il y a un service très très lourd d'hospitalisation, de digestif, où il y a des patients qui relèvent de réanimation, en fait, et qui sont dans ce service-là. Et ce service n'est pas reconnu comme un service même pas de soins intensifs, mais encore moins de réanimation, ce qui fait qu'ils ont un effectif comme des soins continus, ça s'appelle, bon bref, je passe le détail, mais ils ont un effectif vraiment minimum, avec des patients extrêmement lourds. Mmh. Et du coup, bah, c'est un état d'épuisement des agents qui est très important, parce qu'eux, ils continuent à faire le travail comme il faut, quoi. Malgré le manque de personnel.
Ouais, Mont-d'Or, c'est d'un Purpan ?
Mont-d'Or, c'est d'un Purpan.
D'accord. Ouais.
Mais pour les brancardiers, donc, cette restriction des effectifs, elle a abouti à une augmentation en 6 ans de 96% des courses.
Alors, selon les indicateurs de la direction, ce fameux truc de facturation, là, si on prend leurs chiffres, les chiffres, en 6 ans, c'est 96% d'augmentation. En fait, ce qui se passe, c'est pas exactement ça, puisqu'il y avait des courses qui n'étaient pas rentrées il y a 6 ans, etc. Bon, c'est pas exactement ça. Mmh. Par contre, ils se sont accordés à dire qu'il y a 6% d'augmentation par an. Mmh. Donc ça, c'est eux, ils l'ont concédé. Et nous, on sait aussi qu'il y a 24 lits de plus dans l'hôpital des enfants. Donc tout justifie pour qu'il y ait un brancardier de plus H24. Enfin, il n'y a aucun contre-argument. Et ça ferait passer l'effectif de 14 à 19 ETP. ETP, c'est équivalent temps plein, c'est le nombre d'agents.
Ouais. Ouais. Mais en fait, si la direction fait la sourde oreille, c'est que si elle accédait à vos revendications, ça créerait un dangereux précédent pour d'autres pôles dans l'hôpital, peut-être.
Sûrement.
C'est peut-être ça qui les fait reculer, non ?
C'est arrivé aux urgences psy.
Oui, voilà. Ouais. On a constaté d'ailleurs que derrière notre activisme, comme on l'appelle, partout où du personnel a été... rajouter ou financer, c'est partout où notre syndicat fait des actions. Il faut le savoir.
Oui, on n'obtient rien
sans rien.
Cadeau.
Voilà.
Du coup, comment ça se déroule ? Est-ce que vous arrivez à former vos équipes au niveau horaire ? Ou est-ce que vous êtes à peu près...
En fait, les brancardiers ont la ligne établie,
ouais,
et ont des horaires. Soit ils sont du matin, ils commencent à 7h ou à 6h30, soit ils sont de l'après-midi, soit ils sont de nuit. Donc ils conservent leurs horaires à raison de 2 brancardiers le matin et 2 brancardiers l'après-midi. C'est ce qui a été négocié pour le service minimum. Donc ils arrivent à tourner à 4 tous les jours, sauf lorsque... Il y a 3 non-grévistes, en fait. C'est 2 contrats précaires. Mm. Et un juste titularisé, donc voilà. Et il faut savoir que bon, même eux, lorsqu'on parle avec eux, ils sont exténués, mais n'ont pas l'occasion de pouvoir s'affirmer ni se positionner.
Et comment, quels sont les soutiens à ce mouvement? Est-ce qu'il y a du soutien des médecins, du soutien, même si la direction, elle, fait la sourde oreille, est-ce qu'il y a des soutiens des autres corps de travailleurs à l'intérieur de l'hôpital?
On a tout de suite, la première chose qui a été faite, en fait, c'est une pétition pour déjà informer de ce qui s'était passé, parce que personne ne savait, en fait, et de voir si les agents, au moins de l'hôpital des enfants, soutenaient le mouvement. Et en fait, on arrive à 500, je crois, un peu plus, 500 signatures de pétition.
D'accord.
Qu'on a fait tourner, pas beaucoup, hein, on a un peu élargi, mais beaucoup en interne. Et avec des médecins, des anesthésistes, même des chirurgiens, quand on sait la pression qu'il y a au bloc opératoire pour que les patients arrivent et fluctuent, et certains chirurgiens sont d'accord avec le mouvement. Ce qui
n'est pas fréquent.
Mais ce qui n'est pas fréquent, oui. Et puis il n'y a rien pour argumenter de ne pas.
Aussi, ouais, non
et les parents, voilà, on a fait tourner aussi la pétition, etc. Mmh. Oui, ils se rendent bien compte que ça ne va pas.
Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme sortie de crise, là?
Pour l'instant, ils sont déterminés à continuer, ce qui est déjà très bien.
Mais avec ce changement depuis le 6 mai, là, vous voyez. Une des journaux aujourd'hui, c'est le budget restera serré, donc c'est vrai que c'est.
Exactement, mais on est un peu inquiet, ouais. Mais on a donc fait une lettre à l'ARS, l'Agence régionale de santé, parce qu'on sait que c'est eux qui ont les moyens, on n'a pas, a priori. Pas de nos amis, mais on sait que c'est là où est l'argent, donc c'est là qu'il faut demander. Donc on a pris rendez-vous avec l'ARS déjà. On a pris rendez-vous avec les nouveaux députés toulousains du Parti Socialiste pour voir un peu ce qu'ils ont dans la tête et dans le ventre, pour voir un petit peu si ça peut suivre. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est continuer le mouvement et puis l'élargir pour essayer d'obtenir ce qui est.
Et sinon, depuis donc le nouveau gouvernement, je sais même pas qui c'est le ministre de
non,
la
Santé.
Non,
je sais pas qui est le ministre.
Marisol Touraine.
Ah, c'est exact. Marisol Touraine. Oui. Alors, est-ce que Marisol Touraine a fait des annonces qui pourraient aller
vous
dans
rassurer,
un sens
ou...
Ce matin, sur France Culture. Donc, elle a très bien commencé en disant que le gouvernement de Sarkozy s'était trompé sur l'hôpital public, qu'ils avaient négligé l'hôpital public. D'ailleurs, dans la loi HPST dont tu parlais, il n'y a pas le mot de hôpital public.
Ça veut dire quoi, HPST?
Hôpital patient santé territoire.
D'accord.
Oui, c'est un truc à la con. C'est pour ça que...
c'est la
loi Bachelot.
Des ARS,
ouais, c'est plus simple.
C'est
la loi Bachelot. Ouais. Voilà. Okay. Et cette loi dit qu'il n'y a plus d'hôpitaux publics, mais il y a des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Mais il y a des établissements de santé, donc qui fonctionnent pareil, donc avec le même type de financement, avec le même type de logique, etc. Donc, ce qu'a dit Marisol Touraine, ce qui est juste, c'est qu'on s'est trompé. Évidemment, le privé choisit ses patients et l'hôpital accueille tout le monde.
Mm-mm.
Donc, ça ne peut pas être financé pareil.
Mais ouais.
Ça, très juste. Et donc, le journaliste lui pose la question, est-ce que vous allez remettre en question le financement, le mode de financement de l'hôpital, la tarification à l'activité, qui est la même public-privé. Elle a dit « Ah mais non, je veux pas dire ça !» Elle a dit « Voilà, je veux pas dire ça, je veux dire qu'il faut pas que ce soit le centre du financement. » Donc on est un peu inquiet sur comment c'est que la logique, globalement, va pas être de revenir sur ce qui a été fait par Sarkozy. En tout cas, nous, on va pousser au niveau même de la CGT, au niveau national, pour que ce soit le cas, mais on sait que c'est pas l'intention tout de suite. Et un autre truc, c'est qu'il y a... Ils veulent embaucher, ils ont annoncé les embauches dans la fonction publique de l'éducation, dans la police,
la gendarmerie,
voilà. Et par contre, ils ont dit que ce serait à effectif constant de fonctionnaires. Or, on a un peu peur, du coup, que la fonction publique hospitalière soit encore touchée. Sachant que la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris, annonce 3000 suppressions de postes d'ici quelques années sur les hôpitaux de Paris, ce qui est complètement dingue.
Et alors, j'ai vu dans votre appel à cette assemblée générale, là, vous parlez des restructurations dues au plan performance anti-crise.
Ah, voilà.
C'est quoi ça, le plan performance anti-crise?
Tu veux que
Oui, vas-y.
Ouais, en fait, c'est en janvier, donc le directeur général nous a réunis pour dire voilà, qu'ils allaient faire un plan performance anti-crise pour que la crise ne rentre pas au CHU de Toulouse.
Ah! Boutons la crise hors
ouais,
du
boutons la crise. Okay. Voilà, non, en gros, c'est un plan d'austérité.
Ah.
C'est ça.
C'est un plan d'austérité
pour regrouper
les services, mutualiser des services. D'ailleurs, le brancardage est dans le dossier. Ce n'est pas encore appliqué, mais c'est dans le dossier. Donc, c'est un peu aussi le mouvement, il ne vient pas de rien non plus. Il vient sur des craintes aussi de transformation encore de la façon de fonctionner de l'hôpital. Donc, le bio-nettoyage aussi est dans le plan. Et donc nous, on a décidé, la CGT, de combattre ce plan d'austérité. En fait, il vient de quoi ? Il vient de deux choses. Que l'ARS veut couper les budgets de 13,5 millions d'euros. On a bien besoin de ça. On nous enlève les 13,5 millions d'euros. Oui. Donc quand on va rencontrer l'ARS, on va leur dire aussi que c'est un scandale. Et deuxième chose, c'est que les taux d'intérêt pour les hôpitaux, ils ne sont pas hors du marché. Et les taux d'intérêt des emprunts, qui sont très importants au CHU de Toulouse, sont liés avec la crise, augmentent, sont passés de autour de 3% à 4,5%.
D'accord.
Donc ça, c'est 15 millions d'euros. Ça coûte au CHU 15 millions d'euros juste en remboursant les intérêts.
Qui part dans la poche des banquiers.
Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que les hôpitaux aient des prêts à taux zéro.
Bah oui, ça me paraît la moindre des choses,
c'est pour un service public. Du minimum. Ouais. À une époque, c'était le mieux, ça a été 0,9 par la Caisse des dépôts. Et on dit pourquoi pas la Caisse des dépôts,
elle est là pour ça.
0%. Mmh. Voilà. Et donc c'est ce qu'on veut.
Et comment peut-on, nous, public, qui sommes censés avoir besoin de vous n'importe quand, comment peut-on vous soutenir ?
Bien, en venant déjà participer à l'appel le 27. C'est pas le 27.
Le 28, tu veux dire pour le... Oui, il y aura un rassemblement du service de Mondor, ouais, qu'on va rendre public, là, c'est en train de se décider.
Ça, c'est jeudi.
C'est jeudi, ouais. C'est... Et voilà, après, s'informer, venir soutenir aussi... Alors, il y a aussi une caisse de grève pour les brancardiers, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. On a une collecte aussi. Vous pouvez faire parvenir, du coup, les dons, mais en venant nous voir dans les locaux syndicaux, surtout de Paul de Viguier, donc de la maternité. Où on est dans le hall de Paul de Viguier. Vous pouvez venir donner dans la caisse de grève à cet endroit-là. Voilà.
D'accord. Et puis il y aura peut-être d'autres manifestations ou rassemblements ou quoi à la suite de cette assemblée générale.
Possible, oui. Oh, on va peut-être pas donner la date d'occupation de l'ARS. Encore, car l'ennemi nous écoute.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui, okay. Mais merci beaucoup d'être venu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Mais non, merci à vous.
Et en tout cas, on vous souhaite.
Bonne lutte.
Bonne lutte et bon succès.
Merci. Bonne continuation.
Merci.
Bonne continuation.
Merci.